PSG sur France Bleu. Bruno Salomon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG, un PSG 10 sur 10 qui roule fenêtre ouverte en Ligue 1, 10 victoires consécutives. Amiens en a fait les frais et on espère bien sûr qu'il en sera de même pour l'Olympique de Marseille dimanche prochain. Dans cette émission, nous parlerons d'un Di Maria retrouvé, d'un Neymar qui combat les fake news et d'un Gigi Buffon qui love Paris. Est-ce que vous aussi vous aimez Gigi? On en parlera bien sûr dans Tribune PSG. Et puis il y aura du Carlo Ancelotti, du Napoli, du Insigne. Bref, il sera question de Ligue des Champions. Mercredi à 21h, PSG-Naples, ça va être chaud, ça va être bon. Et avec moi ce soir, ils vont rentrer en studio tout de suite maintenant. Émilie Ross, la voix des internautes. Joss, the serial YouTuber. Rap and Foot. Tonton Stéphane, la mémoire vivante parisienne. Et enfin, il représente l'équipe du Parisien, notre partenaire aujourd'hui. C'est Fred Goyard. Et en plus, il y en a un qui est en train de parler, qui fout le bazar. C'est Rico Rabé Sandra Tala qui nous rejoint pour une petite demi-heure avant d'aller commenter un match dans quelques instants. On y reviendra. Rico, pour l'instant, vous installez toutes et tous dans Tribune PSG. Nous, on va juste se rappeler ce qui s'est passé ce week-end. Le 5-0 du PSG. Enfin, 4 buts sur 5. Vous allez comprendre. À tout de suite.
C'est parti, c'est parti, travaillé. La tête, Marquinhos, goal. Marquinhos, goal pour Marquinhos, le parc est debout, les ultras continuent à faire la tête alors que je pense qu'ils ont envie de se sauter dessus.
Pas mal,
tendu,
ça.
C'est la tête, but, goal pour Adrien Rabiot qui vient couper devant Eddy Cavani au même endroit. Christophe Pélissier, l'entraîneur amiénois est dépité. La même, c'est le deuxième corner à droite, le deuxième ballon au premier poteau et on vient couper, mais là c'est pas Marquis. Là cette fois-ci c'est Adrien Rabiot qui vient couper, bien joué, ça tape le poteau gauche et ça rentre tout doucement dans le petit filet. Pour Juan Bernat, qualité de centre, normalement ça devrait être
super.
La tête de Huxley, goal. 3 buts de la tête, mon petit bonhomme. Et le centre de Juan Bernat s'est touché par un piqueur, mais ça arrive quand même sur le crâne de Draxler qui croise sa tête et qui va la mettre petit filet gauche terminé. 3 buts à 0. Voilà, bon, on a le tarif habituel.
On a nos 3 buts, merci.
Erroul et Julien Draxler, bien joué.
Ouais, super. Hein.
C'est bien qui s'appuie sur Mbappé, on rentre dans la surface de réparation, il va frapper.
Et voilà.
Violente, rat de terre, Brim, et la belle passe de Moussa Diaby.
Alors je suis tout seul, je vais vous expliquer tout ce qui se passe.
Mais
tribune de presse, coupure de coupe. On rend général dans la tribune.
Pendant alors, un cinquième but.
Voilà, sur le cinquième but de Moussa Diaby. Moussa Diaby qui a marqué seul un peu dans la surface de réparation.
Voilà, alors là, si vous n'avez pas compris, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le but de Moussa Diaby? Bah, désolé Moussa, mais on a raté le but. Coupure d'électricité dans la tribune de presse, ça arrive. Pas trop souvent, s'il vous plaît, du côté du Parc des Princes, mais en tout cas, 17h41, bienvenue. Salut la team!
Salut!
Bonjour!
Bonjour! Joss, Rico qui est avec nous, Eric Rabé, Sandra, Fred Goyard, Stéphane Bitton, Émilie Ross. Tout le monde est là pour cette émission. Et Émilie, déjà sur les réseaux sociaux, des coucous, des bonjours. Des bienvenus.
Exactement, voilà, y a plein de monde qui est déjà là et ça nous fait bien plaisir. Donc bonjour à tous, je fais un bonjour global. N'hésitez pas à partager l'émission aujourd'hui. Parfait, tu t'es préparé.
Super. Oui.
On vous fait gagner l'écharpe du PSG Club New York.
Petit clin d'œil justement, parce que Canal Supporter fait le portrait du PSG Club New York. Bah tiens, l'écharpe à gagner qui est magnifique. C'est de la bonne qualité. Attendez, qualité américaine, on n'est pas là pour rigoler. Voilà, en tout cas, vous partagez l'émission. Un maximum. Attends, je regardais tout à l'heure. En tout cas, partagez l'émission et ce sera donc à gagner l'écharpe du PSG Club New York. Rico, tu restes avec nous 20 minutes, c'est ça?
Ouais, à peu près, oui.
Ouais, parce que t'as un match après à commenter sur Canal Foot Afrique. Canal Plus.
Il finit d'apprendre les derniers numéros de sécurité.
C'est exactement. C'est une grande aventure, mais c'est beau.
Bon, en tout cas, les amis, un 10 sur 10, ça s'est passé ce week-end. Le PSG reçu 10 sur 10. Tonton Steph.
Ouais.
Toi qui aimes les records, toi qui aimes les stats, ce PSG est inarrêtable.
Est-ce que vous connaissez la température idéale pour un enfant ou pour...
Non. C'est la température du bain.
C'est 37. 37. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane?
36,
c'est le nombre de buts marqués, et 6, le nombre de buts encaissés.
Magnifique. Ah, 37, 6. C'est super.
On a fait un 10 sur 10avec
Mais là, il y a des gens qui ont lancé l'émission très très haute.
Je sais pas de.
À la stat de Daronne.
Il met la pression, là.
Je savais pas que t'avais invité Michel Simès.
C'est ça. Michel Simès est avec nous, c'est un ami, Michel Simès de la Tribune. Voilà. Mais là, tu m'as un peu surpris, d'accord? Je m'attendais pas. Justement, je m'étais pas mouillé la nuque.
Très bien, évidemment. 10 sur 10, ça n'avait jamais été fait en France. Mais comme déjà, le 9 sur 9 n'avait pas été fait, eh bien maintenant, on serait tellement content qu'il y ait un 11 sur 11.
Celui-là.
Celui-là, il vaudrait QF2. Voilà.
Oui, Émilie.
Et bien justement, ça réagit en ce sens sur les réseaux. Il y a Alexandrie et Patrick qui nous dit le plus beau, ce serait un 11 sur 11 et surtout au Vélodrome.
Au Vélodrome, effectivement. Pourquoi on
en
parlera.
Pourquoi pas un 20 sur 20
Un 20 sur 20. Moi, j'aime, Fred, quand tu es gourmand comme ça. Quand tu... Voilà, on rappelle juste que le record européen, ce sera 11 sur 11 pour le Big Five.
Oui, parce qu'après, Benfica était à 23,
voilà.
Je crois.
Ouais, c'est ça.
Mais... Ceci dit, le PSG a largement les moyens d'arriver à 20. Hein. Enfin,
38, même, hein, s'ils veulent.
S'ils ont envie.
Rico, alors, juste une chose, il faut le savoir, sur l'émission et pendant la rencontre, c'est la première fois que j'entendais Eric Rabé sans Latana cette saison s'énerver contre l'adversaire. Parce que Eric, pour toi, les Amiénois, ça n'allait pas.
Un petit peu contre Belgrade déjà, non?
Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Non, mais là, c'était flagrant. Non, mais c'est un scandale de ne pas jouer le match du tout, quoi. Si tu viens, En plus, ils étaient bien en place au départ. On s'est dit, bon, ça va être dur, ils vont sortir. Enfin, ça va être dur, non, j'exagère. Ça va pas être dur, mais ils vont sortir et ils vont jouer un peu. Et là, rien du tout. Ils récupéraient le ballon, ils ont eu quoi? Une occasion?
Ils n'ont jamais poussé une seule de leurs actions offensives. Jamais. C'est pas le meilleur moyen de préparer un match de Ligue des Champions, ça c'est vrai.
Oui, Steph, et après on va
C'était une vanne pourrie. On va apprendre qu'un haut dirigeant amiénois a voulu mettre 5 millions d'euros sur la défaite de son équipe par 5-0. À la fin, ce sera même plus un pari, ce sera une banalité.
On salue Monsieur Johannin, le président de l'Amiens Sporting Club.
Ça n'était que de l'humour.
Voilà, c'est de l'humour. Joss, ce PSG qui roule au super, qui se fait 40 minutes, voilà, en coup de pied arrêté, qui après n'a plus une action pendant 40 minutes et puis d'un coup remet un coup d'accélérateur.
Ouais, je dirais que c'est plus le pressing du PSG qui a vraiment annihilé les espoirs des Amiénois, malheureusement. J'ai trouvé vraiment l'équipe en place et surtout l'idée de presser à chaque fois que la balle allait perdue de Tourelle. J'ai l'impression que les joueurs, ils l'ont vraiment bien assimilé et ça a été mis en place ce week-end et on a vu le résultat.
Je suis pas tout à fait d'accord quand même.
Ouais, moi, c'était moins flagrant qu'avant.
Ouais, c'était moins flagrant que sur les matchs.
Ouais.
Et je crois qu'Amiens aurait pu, alors pas tout le match, mais sur quelques actions et notamment, j'ai oublié son nom, le numéro 7.
Boudos.
Ouais, c'est ça.
Il aurait pu
pousser, ouais, voilà, exactement. Il aurait pu pousser un peu plus sur Nkunku, qui n'est pas un expert du poste de latéral droit. Et ils l'ont jamais fait. C'est là où ils ont été décevants. Et je trouve que leur pressing offensif au PSG était un petit peu moins efficace que sur certains matchs précédents.
Mais ils avaient pas besoin.
Amiens aurait pu essayer un tout petit peu plus. Que vous perdiez 5, 6, 7-0 au bout d'un moment. De toute façon, ils ont perdu 5-0 finalement.
Mais non, mais c'est ça le problème. Ouais. C'est qu'en plus, t'as pas joué le match et en plus, t'en prends 5. Donc tu te dis, mais il valait mieux essayer de jouer et de marquer un but.
C'était extrêmement faible. Hein. Amiens, on en a parlé avec Eric après le match. Je trouve qu'il jouait mieux l'année dernière. Là, c'est vraiment
l'inconscience du promu. Maintenant, on est tombé avec une équipe qui calcule et elle calcule mal. Oui,
moi, j'ai trouvé vraiment que le pressing était intéressant. Le seul truc, en fait, c'est qu'effectivement, le PSG, la semaine prochaine, cette semaine, ont un match très difficile face à Naples. Et ils ont fait les efforts nécessaires, pas le maximum, mais en même temps c'était prévisible. Je pense que Tourelle aussi l'a dit sûrement à la mi-temps, les gars, le match il est gagné, autant se préserver en vue du match face à Naples.
Oui, Rico.
Et t'as vu l'intervention de Tourelle par rapport à ça, qui dit que faut arrêter de se cacher derrière le niveau du championnat de France. Il faut jouer les matchs à fond et se préparer tout seul, même si je suis d'accord quand même que quand t'as des adversaires qui te posent des problèmes, c'est quand même plus facile de se préparer que quand c'est toi qui te mets tout seul.
Après, je sais pas si ce que dit Tourelle à ce moment-là, c'est après le match contre Amiens, c'est pas diplomatique aussi. Il vient d'arriver dans le championnat de France, il peut pas se permettre comme ça d'étrier
de dire
la Ligue 1.
Le niveau est pas bon.
Et je pense qu'il est en train de connaître ce qu'ont connu avant lui Emery et Blanc. C'est-à-dire que effectivement, la Ligue 1 et ce type de match ne te prépare absolument pas au match de Ligue des Champions. Et ça, c'est un vrai problème. Alors,
En effet, si le PSG a envie, met de l'intensité contre Naples, ils peuvent gagner. Mais c'est pas avec des adversaires comme Amiens que tu prépares bien quand même la Ligue des Champions. Je suis désolé. Et ça, je pense qu'il est inconscient. Il peut pas le dire.
Tu peux pas jouer toutes les semaines.
Émilie, sur les réseaux sociaux, ça bouge.
Le Bayern, là, ils ont gagné la Ligue des Champions. Le championnat, il y a pas non plus 30 équipes. Il y a deux équipes à tout. Oui, parce que c'est l'entraîneur qui est pas bon. Mais la Bundesliga, c'est pas non plus le championnat le plus relevé.
C'est un peu plus compliqué. C'est plus dense quand même. C'est un peu plus homogène.
Est-ce qu'on peut écouter nos amis sur les réseaux sociaux?
Oui, parce que ça réagit.
Mais tout d'un coup, ça peut partir.
Exactement. Ils réagissent tous en même temps que vous. Donc, attention, je vais vous lire 4 commentaires. Oui. D'accord. Donc, vous écoutez et après, on réagit.
Comme ça, on fait.
Voilà, exactement. Sinon, vous allez me couper encore. Ça m'énerve. Il y a Jérém qui nous dit très faible Amiens, mais le PSG a eu aussi un peu de mal au début. Patrick nous dit un Marquinhos qui a bien compensé les carences d'Nkoukou. Drick nous dit j'aime de plus en plus Kerrer. Et Alexandre nous dit Bernat monte en force.
Allez, qui prend Kerrer, qui a aimé Kerrer autour de cette table?
Moi, ouais.
Oui, tout le monde.
Rico, Steph.
Bah, oui, mais tout le monde, mais encore une fois, comment voulez-vous juger Kerrer avec une attaque aussi insipide?
Non, mais juste le comportement. À la limite, la difficulté, la mise en difficulté, non. Parce que forcément, il n'y avait rien en face.
T'as raison. Et puis, il avait raté ses débuts, faut reconnaître aussi.
Ah oui.
Il venait d'arriver.
Il n'était pas aidé.
On est d'accord. On est d'accord. Mais voilà.
On a tous aimé Kerrer.
On voit qu'il y a une amélioration. Oui, bien sûr. Et je pense. Alors, est-ce qu'il valait 37 millions à cette époque? On ne fera pas l'histoire du mercato. Mais en tout cas, je pense que c'est un futur bon, voire très bon défenseur de niveau international.
Moi, je pense que son match avec l'Allemagne, lui a donné une autre dimension déjà, parce qu'on a appris à voir Kerrer plus serein.
Oui, alors
c'était surprenant même, parce qu'on s'est dit il va avoir la pression, et en fait non, il n'avait pas la pression du tout, il était bien dans le match. Alors il s'est retrouvé à droite. À Paris, ses débuts c'était compliqué parce qu'il a changé de poste 3 fois sur les 3 premiers matchs, donc ça c'était plus compliqué pour lui. Mais là, il est en train de s'affirmer, c'est beau.
Ouais, alors, c'est un défenseur qui joue en avançant en plus, il est vraiment intéressant. Hein. Mais c'est difficile à juger avec ce type d'adversaire.
Et alors, Juan Bernat, qui prend? Là, je me retourne vers Joss et Fred, puisque je ne vous ai pas entendu. Alors, avec le sourire que je viens d'entendre et le petit rire,
non,
Joss.
Bernat, je pense qu'il avait un cœur de prouver que ça reste un joueur intéressant, surtout les déclarations de son ancien président. Mais pour tout vous dire, moi, je suis pas convaincu. Je pense pas que ça soit à terme la solution pour le PSG. Et puis en plus, apparemment, Marcelo veut aller à la Juve. Donc Alexandro.
Mais c'est pas grave.
Bien
sûr, on l'accueille avec plaisir.
Avec plaisir.
Sauf que moi, je pense que Bernat, c'est pas un débutant en fait. Je pense que techniquement, je l'ai dit au départ. Je dis quand tu vois techniquement quand il fait ses passes, quand il joue. Alors c'est sûr qu'au début défensivement, c'était compliqué.
Il est plus offensif.
Les centres et tout ça, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment intéressant.
Moi, juste offensivement.
Je vais juste vous demander si vous regrettez Berchiche ou pas en fait.
Ouais. Toi, tu le regrettes.
Un jour, je savais que ça arrivait.
Non, mais Bernat, on savait que c'était un joueur qui pouvait techniquement évoluer à un très haut niveau. Il a montré contre Amiens qu'effectivement, il a des attitudes qui trompent pas. C'est un joueur qui a une technique vraiment au-dessus de la moyenne, qui est capable d'enchaîner avec son milieu, voire avec son attaquant. C'est très bon. Après, moi, je suis un peu comme défensivement. Je trouve qu'il s'est fait éliminer à un moment donné en deuxième mi-temps par un attaquant aminois. C'est encore un peu inquiétant. Je pense que là-dessus, il va falloir qu'il bosse vraiment beaucoup, hein, parce que il a quand même plus de...
C'est même pas qu'il se fait prendre par de vitesse, c'est que des fois,
éliminer,
même il se fait éliminer ou ses placements sur le terrain, ça peut vraiment poser problème à la défense.
Je le trouve dur. Avec lui, franchement.
Défensivement, il est
pas
au point.
Je pense que si t'as c'est le boulot d'un travail défensif collectif. Si ton défenseur central de ton côté te donne un coup de main, comme ça doit être le cas normalement, ça sera déjà beaucoup plus facile.
17h50.
Moi, j'attends de voir avec un PSG qui aura moins le ballon que contre Amiens. Ça m'intéressera.
Émilie, ça réagit.
Ça réagit sur Bernat. Justement, il y a James qui nous dit Bernat a simplement besoin de confiance et de repères. Et Steve nous dit Bernat, on verra ça en Ligue des Champions.
17h51, vous êtes dans Tribune PSG. Je vous rappelle que si vous partagez l'émission, l'écharpe du PSG Club New York qui est à remporter aujourd'hui, vous n'hésitez pas, avec les premiers froids qui arrivent, ça peut toujours servir. N'hésitez pas, regardez, Tonton, par exemple, a mis sa petite écharpe.
Alors, qu'est-ce que c'est comme
ça?
On fait ouvrir l'écharpe de Tonton.
Hop,
Hop, voilà, voilà, comme ça. Allez, on va parler d'un homme, justement. On a parlé de Kerrer, on a parlé de Bernat, on aurait pu même parler de Marquinhos, mais je vais quand même, voilà, très bien, super.
Elle aura l'odeur de tonton.
Di Maria a-t-il vraiment changé? Pourquoi on vous pose cette question? Parce que ce matin, dans Ici c'est France Bleu Paris, notre tonton national, Stéphane Bitton, qui se réveille tous les matins, fait qu'il dort finalement à la radio, et qui est là à 8h10.
Surtout la soirée de mercredi à jeudi.
C'est ça.
Je croyais qu'il dormait au Parc des Princes.
C'est ça. Non, non, il dort à la radio, quelquefois au Parc des Princes, et tonton a parlé d'entre elles, Di Maria, en citant quand même, excusez du peu, Angel et Romeo Elvis. Joss, tu peux voir quand même qu'il fait des gros efforts.
Bah, tonton, vois, c'est... musicalement, je suis fier de toi, tonton. Franchement, voilà,
tu vois,
culture urbaine, ça y est.
Tu vas venir avec moi en voiture, on va faire le tour du parc de maison, je vais faire écouter ma playlist.
Avec plaisir.
Tu vas pas être dégoûté.
Voilà, avec plaisir.
T'as passé un week-end en Belgique?
Voilà. En tout cas, en citant, pourquoi, d'ailleurs, c'était quoi la phrase?
Je vais te la reprendre. Le spleen n'est plus à la mode, le bonheur, je sais plus que la phrase, mais oui, c'est
que ça.
Le spleen n'est plus à la mode.
En tout cas, pour faire dire que Angel Di Maria est en train de revenir, elle n'a plus le spleen, justement. Est-ce qu'il a vraiment changé, ce Angel Di Maria, Fred?
Moi, je trouve que non, finalement, parce que... excuse-moi, je dis pas...
Non, mais je t'en prie.
Mais je trouve qu'il est dans, finalement dans la lignée de sa seconde partie de saison l'année dernière avec Emery, puisqu'on a tendance à oublier qu'effectivement, il y avait eu un gros spleen lors de la première partie de saison. Et après, notamment en raison de la blessure de mais ça avait déjà commencé en janvier d'ailleurs. Il a beaucoup joué lors de la seconde partie de saison et il a été très bon. Il a été très très bon en seconde partie de saison.
Il est le meilleur buteur de 2018.
Exactement, il est le meilleur buteur de 2018. Et je trouve qu'il est finalement, il est sur sa lancée, en plus avec un entraîneur qui lui accorde toute sa confiance. Donc finalement, on le retrouve virevoltant sur le côté à chaque fois à chercher, pas toujours trouver la solution, mais il cherche sans arrêt, il se déplace beaucoup. Moi, je trouve qu'il a pas tant changé que ça.
Moi, je dirais que son niveau de confiance a augmenté. Voilà, je pense que le joueur, en fait, c'est un Sud-Américain. On les connaît, ils sont très dans l'affectif. Et je pense que Tourelle l'a très très bien compris. On parlait de calinothérapie un petit peu abusive, mais ces joueurs-là, en fait, ils en ont besoin. Et là, en plus, il a la confiance de son entraîneur. Il sait qu'il fait partie du quatuor, parce qu'on parle plus de trois joueurs maintenant. Il est décisif. Ça veut dire qu'il est en pleine confiance. Je pense qu'aussi, j'ai l'impression que son but en Coupe du Monde face à la France, ça va peut-être, à galvaniser d'une certaine
possible,
façon.
Ouais.
En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation qu'il joue avec beaucoup de confiance et sur coup de pied arrêté, en tout cas, sa patte, elle peut vraiment nous servir.
Émilie, sur Facebook, ça réagit.
Ça va dans le sens de Joss, effectivement, sur les réseaux. Il y a David qui nous dit « Oui, Di Maria a vraiment changé en tout sur le terrain. » Marius nous dit « Pour Di Maria, on sent que Tourelle compte sur lui et souhaite le mettre en place. Il y a un aspect psychologique qui le bonifie. » Olivier qui rajoute « Tourelle a redonné de la confiance à Di Maria. » Ako nous dit « Di Maria est redevenu indispensable. » Et enfin, Narcisse Leloup, vous me régalez les gars en pseudo Facebook, nous dit oui, il a changé parce qu'il avait besoin de la confiance de son président. Depuis qu'il a prolongé, il se donne à fond sur le terrain.
Il n'y a pas de prolongation.
Non.
Ah oui, alors ça c'est... Oui.
Il n'y a pas de prolongation pour l'instant. Pas officielle en tout cas. Il y a des discussions.
Le journal L'Équipe a annoncé une prolongation.
C'est le Parisien qui avait écrit en début septembre qu'il y avait des discussions pour une prolongation qui était en très bonne voie.
Et alors,
pour l'instant, cette prolongation n'est pas officielle.
Ça n'a pas été signé. Oui, Rico, tu voulais réagir sur tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux.
Écoute, non, alors moi, je sur Di Maria, je pense qu'il changera jamais, en fait. Mais il changera jamais, en fait, c'est simplement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je vous dis. Je parle techniquement et. Ce qui a changé, en fait, dans Di Maria, c'est son investissement. Mais sinon, le reste, au niveau football, c'est le même. Alors, il a un peu plus de panache, un peu plus de... Mais il aura toujours son défaut d'en faire trop de temps en temps.
Mais là, il a toujours changé en main, quand même.
Je dis pas qu'il est pas bon. Je dis simplement qu'il sera jamais extraordinaire pour moi, Di Maria.
C'est un très bon joueur.
C'est dur, Rico, quand même.
Ses défauts ne changeront jamais, en fait. C'est pas possible.
Je suis un peu comme Tourelle, j'adore ce joueur.
Non, mais je dis pas que c'est pas un bon joueur. Je dis simplement que son investissement, à partir du moment où il est bon.
C'est exceptionnel, c'est le meilleur tireur de corner.
Il tire bien,
je dis
pas le contraire. Sauf que avant de marquer son but direct, il en a tiré combien? Bruno, dis-moi s'il te plaît.
Il a quand même un sacré pied gauche.
Ah oui, ça on est d'accord.
Le mec n'arrive pas au Real parce qu'il est moyen. Il est pas moyen, c'est un très bon joueur. Je dis juste que il est voilà, il sera irrégulier
il
parce
est,
que
il est très il bon a, depuis le mois de janvier quand même les gars.
Depuis ça va, c'est ouais, vous êtes difficile.
Hein. Ouais, citez-moi un joueur qui moi, depuis le mois de janvier avec le PSG est aussi régulier.
Ah, c'est le seul.
C'est depuis le mois de janvier hein.
Je suis d'accord avec toi.
Depuis le mois de janvier.
Je te dis le match d'Amiens, c'est la confiance. C'est ce qui manquait l'année dernière, c'est ce qui lui
et même même en janvier à partir de janvier où il avait pas une confiance énorme d'Emery, il a depuis janvier, il est très bon. Bon, on peut demander à un joueur d'être excellent, mais là, il est vraiment très bon depuis janvier.
On va l'attendre désormais sur les matchs de Ligue des Champions.
Oui, c'est là mais où comme tous les Parisiens, c'est pas le seul, comme tous les Parisiens.
Non, mais je crois qu'il sera bon sur les matchs de
Ligue des Champions. Je te sens observateur là sur les trois garçons.
Oui, d'abord,
qui sont
j'ai
retrouvé
la phrase. Hein, donc, déjà, je vais alors, le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux, et j'ai l'impression que c'est vraiment. Ça a été sa démarche.
Et voilà. Juste pour vous dire que c'est l'écharpe devenu, est vraiment très chaude. Ah ouais. Voilà, puisque Tonton l'a porté quelques instants autour du cou et qu'il m'a fait signe
de
dire.
Je confirme que c'est de la qualité.
C'est de la qualité. Voilà.
Surtout qu'avec Di Maria, Bruno, il aurait pu se démobiliser après le match aller à Madrid de la saison dernière où il s'est retrouvé sur le banc. Et il est resté malgré tout investi et il est resté à un très bon niveau. Donc bon, on peut lui demander beaucoup de choses, mais il est quand même à un excellent niveau. Hein.
Tonton, est-ce que tu veux clôturer sur le sujet de Di Maria? Il y a
peut-être aussi sur les réseaux souvent sociaux. Je l'ai souvent plombé dans cette émission. Alors maintenant que je trouve qu'il a changé, vraiment changé, je pense que c'est bien, c'est notable, et il faut le dire, et c'est bien. Et je pense que Paris a vraiment besoin d'un joueur comme ça, qui a l'expérience des grands matchs, qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Et finalement, il y en a pas tant que ça au Paris Saint-Germain. Il y en a évidemment, mais je pense que ça servira et on devrait le voir. Peut-être dès mercredi face à Naples.
Oui, Émilie. Et après, justement, on va parler d'un autre garçon qui est en train de porter beaucoup d'expérience au PSG.
Il y a Olivier qui nous dit, je trouve que ça conclut pas mal. Di Maria est resté le même, rageant par son jeu personnel des fois et éblouissant d'autres fois.
Et ben voilà,
très bien. Comment il s'appelle ce garçon?
Olivier.
Bravo, Olivier. Merci beaucoup. 17h59, et justement, puisqu'on parle de garçons qui ont de l'expérience et qui apportent des choses.
André dit Olivier.
En fait, il s'appelle Carlos, c'est son ami, il tient un restaurant du côté du 6e. Gigi Love Paris, je ne sais pas si hier vous avez regardé le Canal Football Club. Cette déclaration d'amour de Gigi pour Paris, pour la France,
à la France, effectivement. La Normandie, la Bretagne, la Côte d'Azur, il aime tout.
Hein. Il ne comprend pas pourquoi les Italiens et les Français se chiclent le nez, parce qu'en fait, finalement, Gigi love la France. Bah,
bien sûr, et les Français love l'Italie. Dès qu'ils ont 5 minutes, ils vont à Rome, ils vont à Florence, ils vont à Naples, aussi. Évidemment, bien sûr.
Évidemment, oui, certainement même. L'accueil que j'ai reçu en France surpasse parfois l'affection que je reçois en Italie. Et pour moi, ceci est très important et je suis très ému. Parce qu'aller à l'étranger et être traité d'une telle façon n'arrive pas tous les jours. C'est très beau pour moi. Voilà déjà de sa part.
Bien belles paroles.
Oui, des bien belles paroles, effectivement. Il était dans une opération de charme, de communication, on peut le dire. Fred, sauf que il a réussi son coup.
Mais depuis qu'il est arrivé, de toute façon, il réussit à peu près tout ce qu'il.
Il est comme Tourelle, en fait.
Il est bon sur le terrain quand il joue. Hein. Ouais. Il fait pas de vagues. Il n'est pas venu jouer
70 matchs.
Voilà, il n'est pas venu jouer 70 matchs. Il l'accompagne, il escorte même Areola vers les sommets. Hier, c'était un peu Tom Cruise sur le plateau, là, il rigolait à toutes les blagues. Il était extraordinaire. Moi, je trouve que on dirait un acteur américain, quoi. Il est extraordinaire.
Il est magnifique. Sincère, quand même.
Je dis pas que c'est pas sincère. Ouais.
Non, mais il est bon. Il est très bon sur la communication.
Il est très bon sur la com. C'est un maître. Hein. Il est très bon dans le but, mais sur la com, il est exceptionnel.
Alors la petite anecdote. Oui, Émilie.
Alors non, juste parce que il y a plusieurs réactions sur Facebook. Je suis obligée de vous couper parce qu'il y a une énorme faute sur le tableau. Donc Guillaume, Ami, etc. Il y a un S à Love. Alors pour ceux, effectivement, qui parlent couramment anglais.
Donc Gigi loves.
Loves parce que c'est il.
Ça prouve qu'on est bon. En anglais,
tout voilà, ça, voilà. Pardon. Voilà, pardon. Ah, en un an et demi,
ils lisent le paper.
Mais c'est ça. Voilà. Comme
moi,
quoi,
je
le paper marche.
Erreur à Gigi,
je suis ça. J'étais là, Gigi, oui, Paris. Bah non, merde. Alors.
Ouais, oui, il a pu se tromper.
18h01. Donc, Gigi Love Paris. Juste.
C'est le mec en plus qui a ça quand même.
Ouais. Alors
là,
histoire d'allumer un peu. Désolé. Pour revenir sur Gigi Buffon. C'est vrai qu'il était dans une entreprise de séduction, mais il est en train. Est-ce que finalement, c'est pas la meilleure recrue du Paris Saint-Germain sur ce dernier mercato, sur ce qu'il est en train de faire? Il est en train de devenir un peu.
Je me souviens qu'on a eu un débat il y a quelques semaines là-dessus. Ouais.
Oui, hein, toi, t'étais pas d'accord.
Non, déjà, non,
bah justement, sur le bateau mouche, pas là.
Déjà sur le bateau mouche, on avait eu cette question. Oui, oui. Non, et moi, j'étais déjà charmé du fait que je savais que son expérience et son dialogue et sa présence allaient amener quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, c'est sûr qu'on l'attendait plus sur le terrain, mais il n'empêche que tout ce qu'il amène en ce moment, je ne suis pas surpris.
Il est charmant, mais il est charmeur. Quand il joue, il est très bon.
En plus,
il réussit. Quand il joue, il est très bon. De là, après, il a pas joué. C'est la meilleure.
Il a pas joué la Ligue des Champions.
Oui, comme ambassadeur, comme image du PSG.
Il faut pas lui dire qu'il est ambassadeur. Je pense qu'il va très mal le prendre.
Non, mais quand même, on a même appelé ici l'adjoint de Tuchel puisqu'on le voyait encourager ses
justement,
copains.
Justement, c'est par rapport à ce débat où moi évidemment. Je n'ai pas du tout d'accord avec vous. C'est voilà. Pas un adjoint, c'est un joueur de foot, un gardien.
Il va être important. Il va sûrement, il apporte déjà sa pierre à l'édifice. Maintenant, il n'est pas assez souvent sur le terrain pour qu'on en fasse la recrue qui était incontournable. Là, on peut
il amène le métier quand même. On entend Thiago Silva en train de dire.
C'est important, bien sûr.
Ouais, on l'a vu à Liverpool, donc attendons.
Oui, mais
c'est quand même sur le terrain que ça se passe.
C'est vrai. Ça, c'est exact.
Alors, il y a Olivier qui nous dit « Merci Gigi de faire évoluer Areola ». Et c'est vrai qu'hier, il y a eu des très belles paroles pour Areola. Moi, c'est ça qui m'a conforté.
Je peux te faire Gigi, si tu veux. Ah, avec oui. Alphonse, je peux dire que nous avons une relation fantastique, même magique, je dirais. Pour le type de rôle que nous avons, cela peut sembler difficile, mais nous sommes amis et nous nous entraînons ensemble en jouant, en rigolant. Évidemment, quand il joue, je suis vraiment son premier supporter. Je me rends compte que je l'aime bien, que je veux qu'il joue bien, parce que je suis très satisfait pour lui. J'ai 40 ans, donc nous avons des perspectives tellement différentes que je pourrais jouer encore un ou deux ans, mais je vais devoir arrêter à la fin.
Et je rappelle que moi, c'est ça qui me faisait flipper avec l'arrivée de Buffon. C'est-à-dire que j'étais, évidemment, c'est la vedette qui arrive. Et tu dis, merde, Alphonse, on en fait quoi? Et là, c'est stable. Zut, bah, on en
été,
fait quoi?
Ça a été très intelligent de la part d'Areola aussi. C'est ça. De rester aussi. Et de pas dire, quoi, vous me mettez quelqu'un dans les pattes, j'étais le numéro un. Là, pour le coup, il a été très bon. Alors, on l'a sûrement aidé. Il a peut-être reçu des garanties, allez savoir.
Mais Émilie, enfin, juste une chose, parce que là, on est dans un cadre où Areola a 3 matchs à jouer en Ligue des Champions. Il va falloir voir un petit peu quand même ce qui va se passer quand les matchs importants de Ligue des Champions, c'est-à-dire ne serait-ce que Naples retour, là, qui va jouer? Si c'est Areola qui joue, quelle sera la réaction de Buffon? Ou inversement, et puis après, au mois de février, si Paris se qualifie pour les 8e de finale, si c'est Areola qui joue tous les matchs, est-ce que Buffon sera aussi élogieux?
J'imagine pas de crise d'ego.
Ah, je suis tu pas d'accord là, avec toi. C'est un compétiteur quand même. C'est un gars qui a toujours joué. Bon, il a jamais été sur le banc. Oui, j'attends quand même de voir sa réaction si définitivement il se retrouve sur le banc.
On écoute Joss, après Eric, et ensuite on va
sur la
réaction. Je suis du même avis. D'ailleurs, dans son interview hier, il l'a très bien dit, une grande équipe doit avoir 2 bons gardiens. Il a pris l'exemple du Real Madrid. Donc voilà, il sait très bien l'âge qu'il a, mais il est là aussi pour jouer. Il est pas là pour être l'adjoint de Tourelle. Et à la moindre erreur, enfin, il l'a pas dit explicitement, mais il l'a fait comprendre. À la moindre erreur, il se tiendra prêt pour pouvoir.
Et il sait qu'il est performant.
Il sait qu'il est performant.
Ouais, il serait nul encore. Il dirait bon, ben voilà. Ouais,
quand mais non, bah, attention, il l'a dit.
Eric, il est là pour jouer. Hein.
Il a dit de jouer les bons matchs.
Ouais,
donc il l'a dit. Donc lui, il a aussi envie de jouer les
c'est
Tourelle qui doit prendre sa
décision. S'il les joue pas, je sais pas si on aura encore Tom Cruise sur un plateau. Quoi, tu vois.
Je m'inquiète pas.
Il y a David qui souligne, et il n'y a pas que lui, hein, mais ce qui ressort de Gigi Buffon par rapport à hier, et en règle générale, c'est effectivement une classe mondiale. Oui. Stéphane nous dit, oui, on aime Gigi, quelle prestance, et on a une grande doublette de gardiens. Et Laurent nous dit, Gigi a plusieurs fonctions au club, gardien de but, entraîneur adjoint, grand frère, il est important.
Et d'ailleurs, le témoignage de Thiago Silva sur le plateau du CFC, on avait aussi l'impression que Thiago Silva était content d'avoir un relais, d'avoir une espèce aussi de grand frère.
Un leader.
Pour lui, un leader supplémentaire, parce qu'il en manquait un petit peu.
Ça décharge un peu.
Rico, c'est l'heure de partir. Oui. Hein, oui. Il faut aller commenter maintenant. C'est quoi le match à 19h?
C'est Trabzonsport, Erzurum Sport.
Ah ouais, quand même. Ouais. Et toi, t'es pas là pour rigoler.
C'est sympa.
Ouais, le championnat turc à vivre
sympa,
sur Canal Plus Afrique.
Ah,
merci
Rico. Rico.
Ciao. Voilà, tu laisses le siège Latane. On est comme ça. Salut Rico.
Tu vas rater les anecdotes d'après tribune.
Et on se retrouve avec Rico Rabessandratana pour l'émission.
Il faut noter, Bruno, que en parlant de Buffon, c'est un des rares joueurs qui peut venir sur le plateau du CFC avec une petite chemise de flanelle ouverte.
Hein, c'est ça.
Travail, c'est magnifique.
Milly. Pourquoi tu me demandes à moi ?
Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ?
Non. Par contre, juste, alors je voulais vous donner quand même cette anecdote. Sachez-le, ça faisait plusieurs jours que l'équipe de communication qui est autour de Gianluigi Buffon cherchait des relais dans les médias pour qu'il puisse venir s'exprimer afin de faire passer ce message à Areola. Il y a eu le CFC, il y a eu aussi l'échange avec Thierry Omeyer sur France 3 qui a été diffusé. Ils étaient dans une entreprise où ils voulaient absolument trouver un ou deux relais voilà dans les médias pour faire passer ce message que ça se passait bien avec Areola. À noter aussi cette phrase: le palmarès est très important mais je suis ici pour l'améliorer. J'ai joué 3 finales de Ligue des Champions et je voudrais apprendre à la gagner. Là aussi c'est une certaine forme d'humilité.
Et là où je te rejoins, c'est que tu as raison. Là maintenant ce qui me manque du coup, c'est la déclaration d'Areola.
Ouais,
c'est vrai.
Ah, je peux vous le dire. En fait, il voudrait faire une interview commune. Voilà.
On l'attend, cette interview. Voilà.
Et puisqu'il est 18h07, petit coup de sifflet, 18h07, c'est l'heure du coup de cœur d'Emilie. Emilie Ross qui est avec nous de Uniteam Sport. On salue toute la team et le patron, Jeff, coucou. Et pour avec nous, le coup de cœur ou le coup de griffe,
J'ai eu un coup de cœur, moi, sur le management de Tourelle. On en a déjà parlé ces dernières semaines et je ne pensais pas dire ça un jour, mais pour moi, donner des day off là à Neymar, je trouve ça très bien. Je dis ça dans le sens où je vois en Tourelle un manager d'homme versus, alors vous connaissez mon avis sur Emery, versus un petit peu un coach pantin qu'on avait l'année dernière et les années passées. Donc là, voilà, moi, mon coup de cœur, c'est effectivement le management d'homme par Tourelle avec Neymar. Donc j'ai vu effectivement certaines personnes qui disaient oui, mais il a pas suivi le match de Paris. Bah écoutez, sur ses réseaux sociaux, en tout cas, il a félicité les joueurs, il a effectivement communiqué sur le résultat du match. Ça n'arrivait pas avant, ça arrive aujourd'hui, il est off. Moi, j'aime bien cet esprit.
Est-ce que ça vous choque que Neymar ait quelques jours de repos autour de cette table ?
Non, puisqu'il y avait en cadeau, apparemment, après les trois victoires d'avant-trêve internationale, quelques jours pour ceux qui n'étaient pas internationaux ou en tous les cas pas sélectionnés. Donc lui, bah, il est avec l'équipe du Brésil, qu'il ait besoin de quelques jours, qu'il rate le match d'Amiens, franchement, c'était pas dramatique. S'il doit être très bon contre Naples dès mercredi, tout le monde dira bravo. Et si en plus, il réitère dimanche contre Marseille, alors là, ce sera carrément bravo.
Non, ce qui était choquant, c'est quand la saison dernière, il pouvait partir 3-4 jours sans qu'il y ait de motifs donnés officiellement. Alors apparemment, c'était pour des problèmes familiaux.
Là, ça a du sens.
Non, mais c'est pour ça, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, je trouve que là, ça a du sens. Comme a dit Stéphane, à partir du moment où les autres ont eu quelques jours, pourquoi pas lui ? Bon, moi, ce qui me gêne plus, c'est que le PSG puisse se passer de Neymar, de Meunier, d'un Kimpembe suspendu. Bon, Thiago Silva, il s'est blessé. Ouais. Donc, c'était un peu. Mais voilà, pour battre un adversaire en Ligue 1, c'est ça qui est plus embêtant. Mais ça, c'est pas leur faute.
Faible, c'est pas leur faute.
Oui, mais c'est pas leur faute. Mais est-ce qu'en Espagne, PSG, Barça pourrait se passer et de Messi et de Jordi Alba.
On va voir.
Oui, et de. Oui, t'as raison. C'est plus gênant. C'est ça qui est plus gênant.
Joss, sur les vacances du Ney.
Non,
et après, on va en parler de Neymar sur les fake news, hein, bien sûr.
Je pense qu'on a tout dit, c'était intelligent. En tout cas, ça ne servait à rien de rentrer en conflit avec le joueur, surtout que les autres joueurs ont eu des jours de repos. Donc voilà, c'était une façon pour lui de le préserver en vue des gros matchs à venir.
Il n'est pas traité à part, quoi. Voilà, il est traité comme les autres.
Et en tout cas, on rappelle juste une chose. En plus, il avait peut-être besoin un petit peu de souffler parce qu'on a appris par la presse People brésilienne que c'était fini avec Bruno Marquis pour la énième fois.
Ah, c'est triste.
Il doit être malheureux,
effectivement.
Il y a Tony.
Dis-toi, ça veut dire quoi cette réflexion?
Il va galérer pour toi, quelqu'un dans sa vie. Donc,
l'une de perdue, comment le retrouver?
Il y a Tonio qui nous dit, et je trouve ça très juste, quand on voit le nombre de blessés de retour de sélection qui ont joué ce week-end, c'est peut-être bien vu de l'avoir mis au vert.
Bah, de toute façon, évidemment, oui, tout à fait. Moi, je voudrais revenir, parce que tu as fait la comparaison, je suis d'accord. Aujourd'hui, Tourelle étant ce qu'il est et réussissant tout ce qu'il réussit, on est en train de broyer, de passer à la machine à laver l'ami Emery. Alors, il a réussi des choses, il a raté beaucoup de choses. J'ai cru lire aujourd'hui une interview, ou en tous les cas un reportage, où il semblerait qu'Arsenal y fasse du Tourelle. Est-ce que tout simplement Emery n'est pas arrivé au bon moment à Paris, avait peut-être les mêmes envies que Tourelle, mais comme le Paris Saint-Germain cette fois-ci a quelque part touché le fond face au Real l'année dernière, tous les joueurs ont dû avoir une prise de conscience et ils se sont dit cette fois-ci il faut qu'on change.
C'est pas les mêmes égos Arsenal aussi.
C'est tombé. Ouais, bon, il y a quand même, c'est pas non plus, il y a quelques petits gars.
Je suis supporter d'Arsenal, alors, ça me fait mal de le dire, mais il y a pas d'égo, il y a pas de, ils jouent pas la Ligue des Champions, c'est l'Europa League. Enfin,
d'accord.
C'est
une équipe, mais je crois qu'apparemment il a changé l'état d'esprit là-bas et que c'est plutôt une réussite pour l'instant.
Quand tu passes derrière Oncle Picsou qui a passé 25 ans là-bas, c'est quand même, certes. Justement, on parle de, on était en train de dériver sur Emery. J'aimerais revenir sur Neymar dans cette émission à 18h11, puisque Neymar, et on l'a assez tensé dans cette émission l'année dernière pour ne pas revenir sur le moment des fake news, puisque Neymar, vendredi soir, a sorti la sulfatée avec son père. Ils ont un peu tiré à tout bout de champ sur les fake news. Ils ont appelé ça pour la presse espagnole. Alors, juste pour vous expliquer, parce que tout le monde vous a dit, oui, alors c'est parti de son Instagram qui est passé par son... Alors, c'est pas son Instagram qui a lancé son...
C'est l'Instagram du site
internet. Voilà, c'est l'Instagram du site internet, mais qui n'est pas relié au site internet.
Ouais,
voilà, il faut y aller un petit peu.
Oui, mais d'ailleurs, ça mériterait quand même qu'on sache exactement si c'est
vraiment...
La source.
Je peux vous l'affirmer. Ouais. Aujourd'hui, la source, tout a été validé par le clan Neymar. Tout a été validé par le clan Neymar, par son service de presse. Mmh. Tout est liké, la vidéo est likée par Neymar, par le père de Neymar et par tous ses potes les Toys.
Mais liké.
Oui, mais en gros, ça veut dire
que. Ah, like consent.
Parce que ce compte, il n'est pas certifié.
Non, il n'est pas certifié. Il y a 500 000 personnes dessus. Effectivement, et j'ai dû passer un ou deux petits coups de fil avec des amis au Brésil, dont Isabella, que je salue. Mais il y en a d'autres personnes qui m'ont confirmé. C'est bel et bien quelque chose qui est géré par l'entourage de Neymar, et donc c'est quelque chose qui vraiment part de Neymar. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le père en a mis une petite aussi sur un média espagnol où il a mis un étendard fake news. Enfin, Neymar prend en bugne à bugne les médias espagnols. Tonton Steph,
ça fait du bien, ça veut dire plein de choses
quand même.
Déjà, les fake news, ça dépasse largement le cadre.
On est d'accord.
C'est devenu malheureusement aujourd'hui quelque chose avec lequel il faut vivre. Et c'est, je pense que même au niveau des gouvernements, on essaye de trouver des solutions, de la modération. Enfin bon, on trouvera forcément une parade à un moment, évidemment. Mais et aussi, on est très content que Neymar réagisse et remette les... Puisque c'était reparti comme une entreprise de déstabilisation.
On rappelle, il y a une semaine, c'était reparti, les médias espagnols en disaient...
Et on l'annonçait, et ainsi de suite. Bon, je pense que de toute façon, les Espagnols n'ont pas digéré, c'est le moins qu'on puisse dire, le départ de Neymar, un du FC Barcelone, deux de la Liga espagnole, et que donc, tant qu'il ne sera pas revenu, s'il y revient un jour, ou tant qu'il sera à Paris, ils useront et ils abuseront de ce genre de fonctionnement.
Émilie.
Il y a Mathieu qui réagit en nous disant « Les fake news de Neymar ont juste pour but de déstabiliser et de faire vendre du papier. » Patrick dit « Sa vidéo est excellente, marre de ces journaux espagnols qui passent leur temps à tenter de déstabiliser le PSG. » Le mot « déstabiliser » revient énormément dans les commentaires. Et James nous dit « C'est une très bonne chose que Neymar ait fait ça. »
Ouais, c'est parce qu'on lui a reproché l'année dernière. Donc cette fois-ci, c'est vrai qu'on peut passer un petit moment dans Tribune PSG pour dire félicitations. À noter aujourd'hui, l'information qui est importante, Josep Maria Bartomeu, qui est le président du FC Barcelone, qui a accordé un entretien à la Catalunya Radio ce lundi matin, et le président du Barça a été forcément interrogé, bien sûr, sur le retour de la rumeur Neymar, rumeur à laquelle il a fermement mis fin. Neymar est parti et ce n'est pas prévu qu'il revienne.
Oui, après ça peut changer très vite.
Oui, on est d'accord.
D'un autre côté, lisant ça, je me suis dit aussi que Neymar est au Paris Saint-Germain, il a un contrat plus que sublissime, il n'est pas encore parti non plus. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est très difficile de partir du Paris Saint-Germain pour mille raisons, et que bon, maintenant la première année on nous a dit il va partir cet été, puis après on nous a dit il reste encore une année, mais après il s'en va. Rien ne dit qu'il fera pas au moins 3 ans au Paris Saint-Germain.
Fred. Non, mais après, par rapport à tout ça, moi je trouve que c'est génial. Ça veut dire qu'on nous a dit après la Coupe du Monde qu'on avait au PSG une pleureuse, un joueur qui faisait que se rouler par terre. Bon, ben les titres des journaux espagnols, ça prouve bien que Neymar reste un très très grand joueur, que tous les clubs espagnols aimeraient bien l'avoir, le Barça aussi, même si on nous dit qu'il sera pas au Barça la saison prochaine, que le Real Madrid a très envie de l'avoir, surtout avec les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Oui, Neymar est le meilleur ou un des trois meilleurs. Après, vous le mettez où vous voulez, peu me chaud, mais c'est très bien. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que c'est une stratégie globale. On a vu après la Coupe du Monde que le clan Neymar avait repris en main son joueur et qu'il voulait qu'il se concentre que sur le football. Et c'est vrai que l'année dernière, quand il y a eu toutes ces rumeurs de départ en Espagne, ils n'ont pas réagi. Ils ont mis du temps à réagir. Et à chaque fois que Neymar était interrogé à droite, à gauche, quand il faisait l'interview, on lui remettait ça. Alors, est-ce que vous allez partir à Real Madrid? Et ça, c'est vrai que ça l'a parasité. Ça l'a un peu déstabilisé.
Il pouvait être plus clair dès le début. Hein.
Exactement.
Kylian Mbappé, après la Coupe du Monde, il a clairement dit « je reste au PSG ».
C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont trop tardé à communiquer. Et là, ils coupent tout de suite l'herbe sous le pied des médias espagnols pour dire « ben non, il est bien à Paris, il reste à Paris, on verra ce qui se passera cet été, bien sûr. » Mais ils se concentrent sur le football. C'est une stratégie globale actuellement sur Neymar.
Émilie, toi qui bosses dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux, Digital Manager, quand on voit Neymar, il y a une chose qui m'a fait sourire sur Insta Story, back home. Voilà, retour à la maison avec la Tour Eiffel. Ça veut dire plein de choses.
C'est cette stratégie globale dont on vient de parler.
Parce que ça fait un an qu'on lui demande des preuves. Il passe. Et voilà, on a un Neymar.
Et quand il va voir les supporters après le match de Reims.
Reims, ouais.
Ouais, c'est ça. Il n'aurait jamais fait ça. Là, il le fait.
On va le chercher. Il dirigeait vers les
vestiaires. Mais il le fait.
Ouais, il le fait.
L'année dernière, il aurait dit à nos gars.
Il a changé, mais c'est aussi de la stratégie.
Tant que c'est bien pour le PSG.
On en tire bénéfice, en fait. Et on le voit sur les réseaux.
Surtout pour lui.
Sur les réseaux, toi, c'est ce que tu.
Sur les réseaux, oui, tu le sens déjà plus parisien. Qui ne l'était avant, effectivement. Enfin, c'est très bête, mais
les critiques se sont tues aussi.
Oui, et puis je pense aussi que c'est aussi un monsieur qui a peut-être morflé de la fin de la Coupe du Monde avec ses roulades, qui avait une stratégie aussi de séduction, que son club aujourd'hui c'est Paris et qu'il l'a compris. En tout cas, ça fait du bien et on le sent en tout cas effectivement plus chez lui.
Oui, effectivement, il est à la maison. Alors par contre, j'ai découvert que chez lui, dans l'un de son appartement parisien, il a un portrait monumental de lui.
À sa décharge, il n'y a pas que lui.
Tu rentres à la
lui,
maison,
hein.
Tu vois ta tronche.
Il n'y a pas que lui qui fait ça.
Mais ça, c'est autre chose.
J'ai mis ça sur mon immeuble, moi.
En vitrophanie, c'est distrait.
Allez, on passe à la suite. Il est 18h18. Je vous rappelle que si vous partagez cette émission, Tribune PSG, vous remporterez par tirage au sort l'écharpe du PSG Club New York, certifiée bien chaude, par Stéphane Bitton, qui l'a testé tout à l'heure dans ce studio où il fait de plus en plus chaud. Effectivement, on a parlé de Neymar. Le PSG peut-il faire chuter Naples, c'est bon, on n'avait pas fait de coquille.
Il n'y a pas d'anglais, donc normalement,
ça devrait pas trop mal se passer. On parle de la Ligue des Champions. Tiens, si on... Ça...
On est déjà mercredi.
Ouais, mercredi, 20h, minuit, sur l'antenne de France Bleu Paris, à suivre PSG Napoli. Il y aura les notes du journal Le Parisien à la fin de la rencontre. On aura bien sûr les copains de Tribune PSG, Stéphane, Émilie, Joss et aussi Rico Rabé-Santana, Miguel on fire, bien sûr notre ami Miguel. Stop, merci. Ouais. C'est moi qui...
C'est bien, mais 5 minutes.
Ouais, c'est bien, 5 minutes, c'est ça, c'est qu'à un moment donné.
La version longue est magnifique. Ouais.
Elle s'écoute ça tous les jours, petit déjeuner. Allez les amis, justement, Naples, est-ce que le PSG peut faire chuter? On a posé la question sur les réseaux sociaux. Ça donne quoi, Émilie?
Alors, on a eu plus de 700 votants au global sur Facebook, Twitter et Instagram. Et à 85%, la réponse est oui, le PSG peut faire chuter Naples.
PSG est prêt. On rappelle juste quand même le classement de la poule C. Naples, que tout le monde voyait perdu après son nul du côté de Belgrade, 0-0. Fait chuter Liverpool 1-0 sur un but de Insigne à la 90e. À domicile. Après, quand on regarde le match, et pour l'avoir regardé, ils ont bouffé Liverpool de la première à la 90e. Et on va dire que le but d'Insigne vient juste valider finalement. Et finalement, c'est un Napoli leader qui débarque, oui. Steph, au parc.
La question, évidemment, peut-il faire chuter le Naples? La réponse est oui, évidemment, mais surtout, Paris a intérêt à faire chuter Naples. Parce que un autre résultat qu'une victoire, ça deviendrait un peu compliqué pour la suite. Oui, parce que justement, tu as Liverpool qui va jouer l'autre match face à l'Étoile Rouge. On peut penser à Anfield, donc ils vont prendre les 3 points et donc probablement se retrouver avec 6. Et donc le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment le choix. Faut au moins gagner ce match-là face à Naples et faire un bon résultat au retour.
Émilie, sur les réseaux sociaux et après, Joss et Fred.
Ça réagit justement exactement sur ce que tu viens de dire, Tonton. Il y a Globule qui nous dit si on ne peut pas battre Naples, on ferme la boutique et on ne joue pas les matchs. Richard nous dit Naples ou pas Naples, il faut gagner.
Joss.
Cette année, Naples, ils ont perdu deux fois en championnat. Ils ont perdu face à la Juventus. Voilà, ils ont quand même du mal quand ils affrontent des top clubs européens. Je considère que Paris en est un. Qui plus est, le PSG à domicile, c'est quand même très très fort. Je vois une victoire du PSG.
Ouais. Non, mais c'est vrai que Naples a joué un bien mauvais tour au PSG et à Liverpool avec sa victoire à domicile contre Liverpool. Parce que là, c'était supposément un match à deux et ça devient un match à trois. Donc voilà. Là, ça devient beaucoup plus compliqué pour Paris. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois depuis qu'ils sont de retour en Coupe d'Europe en 2012, enfin en Ligue des Champions, pardon, qu'ils ont ce cas de figure à affronter.
Tout à fait.
Donc ils ont, pour la première fois, même depuis le match de Porto en décembre 2012, un vrai match couperet à domicile. Là. C'est-à-dire que celui-là, il faut absolument pas le perdre. Après, on verra ce qui se passera dans 15 jours. Mais là, ils sont dans une autre configuration. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils ont quand même dans la tête, si cette équipe est forte mentalement. On avait été déçus par Liverpool. Je crois que là, comme dit Joss, ils ont quand même les moyens de prendre la mesure de Naples qui a déjà perdu deux fois. Mais
attention, voilà. 3-5-2, il y a un 3-5-2 assez diabolique qui est mis en place par Carlo Ancelotti. Ouais. Et ouais, on a nos amis de Liverpool qui sont tombés dedans, hein, Joss. Et après, on vient de voir Stéphane.
Ils ont une très très belle équipe, notamment en défense avec Koulibaly qui fait un début de saison incroyable. Ouais. Mertens aussi qui est sur la lancée de sa Coupe du Monde. Ouais, des chambres voulaient Koulibaly parce qu'ils pensaient français, effectivement.
Mais là, j'ai joué pour le Sénégal.
Moi, je trouve que, enfin, je sais pas hein, si vous êtes d'accord avec moi, mais je préfère cette configuration-là pour le PSG qui doit justement batailler déjà dans les poules afin de s'en sortir et qui aura peut-être déjà cette expérience-là s'il se retrouve en huitième ou quart de finale.
Tonton. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain doit être respectueux de cette équipe de Naples et de son entraîneur, évidemment. Si Paris respecte Naples, c'est-à-dire si Paris joue à fond avant, ne se dit pas que le match est gagné d'avance, alors Paris gagnera et Paris sera dans une configuration confortable. Si Paris pense que c'est déjà gagné, que finalement Naples est déjà de défaite, que c'est pas si costaud que ça, alors là Paris s'expose à des soucis. Donc je pense que le respect, être sérieux, aborder le match de la façon la plus, enfin en se disant que c'est vraiment un match pas élimination directe, quelque part il y a encore le moyen de, mais quand même c'est avec cet esprit là je pense que ça va être un match très intéressant pour savoir où en est le PSG et qu'on y verra sûrement plus clair que par rapport à qu'après la victoire face à Amiens, parce que évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'était facile. Maintenant, là, on va savoir les raisons.
Mais faut pas l'utiliser comme excuse. Si le PSG venait à faire un mauvais résultat, non, dire pas comme excuse face à Amiens.
Ah, oui, non.
Ce que je veux dire, c'est un vrai beau test et que ce sera pas, enfin, à mon avis, ce sera pas facile.
Ah non, voilà. C'est sûr.
Petites informations pour cette rencontre. À noter que Simone Verdi, l'ailier droit, est forfait pour problème aux adducteurs. Et juste rappeler quand même le classement en Serie A du Napoli, deuxième à 4 points de la Juve déjà et avec 2 points d'avance sur l'Inter qui est troisième. Émilie, toujours sur les réseaux sociaux, ça bouge.
Oui, ça réagit. Il y a Romain qui nous dit c'est le retour de Napoli qui va être très compliqué et c'est là que Paris va devoir montrer un visage de grande Europe.
Effectivement, ça je suis assez d'accord. Et alors moi je vais vous dire une chose, mettre une petite pièce, je vais pas m'amuser à mettre beaucoup d'argent, mais quand même, attention à l'étoile rouge Belgrade à Liverpool. Ils ont pris de l'eau chaude, ils se sont fait pourrir en disant qu'ils avaient truqué le match, machin, etc. Vous verrez que Liverpool s'en sortira peut-être pas si facilement.
À domicile ?
Ouais. Je pense que Belgrade, ils vont y laisser.
Comment ils fait ont
fait
une petite pièce.
Ils sont pas très forts. Hein,
non, mais je vous dis pas qu'ils vont gagner, attendez, mais ils vont.
Tu mets une pièce ou tu mets une pièce?
Ça va être une pièce quand même.
Là, t'as repris ta pièce.
J'ai le jeton d'un grand magasin.
Le jeton de Leclerc, qu'est-ce que tu fais?
Ou sinon, tu peux mettre 50 centimes d'euros.
Non, par contre, la petite blague, et ça fait déjà réagir un petit peu sur les réseaux sociaux, à noter le retour d'un arbitre allemand pour la rencontre. Ça sera Felix Weyer, 37 ans.
Mais c'est pas notre ami.
Non. C'est pas notre Barcelonais. Oui, parce que il a sa licence à Barcelone. Je sais même plus son nom, mais qu'il aille à trépas. Un seul match de LDC à son actif, le retour de Carlo. Toujours un peu émouvant
d'en voir
Carlo. Demain, dans France Football, Carlo Ancelotti qui parle du PSG comme son enfant, qui dit c'est beau de voir grandir ce PSG.
Oui, bah parce qu'il est à l'origine des fondations du PSG actuel, quoi, du PSG version Qatar, quoi. Il est à l'origine, lui, Leonardo, sont quelques-uns d'origine italo-brésilienne à avoir bâti les fondations de ce club, quoi. Donc effectivement, ça doit l'émouvoir à chaque fois qu'il revient à Paris. Je crois qu'en plus, bon, la séparation avait été un petit peu houleuse, mais il a passé plutôt un bon moment dans ce club.
Ah oui, je pense qu'il aurait même aimé rester un petit peu plus.
Ah, hein, c'est clair. S'il avait senti un peu plus de confiance, oui, bah voilà.
On avait quand même l'attelage parfait au départ. Au démarrage, t'as quand même Carlo Ancelotti et Leonardo. T'étais quand même plutôt bien armé. Après, bon. Après, voilà.
Les choses, un match à Reims,
il faut jamais oublier que c'est quand même cette année-là que le PSG est le plus proche d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions.
Ouais, ce quart de finale. Ça reste quand même ce but de Ravière. Et ce but de Pedro. Bon, allez, on va pas en reparler, mais ça fait quand même 1-1 là-bas du côté de Barcelone. Je vous rappelle, émission spéciale. Un dernier mot sur PSG Napoli sur les réseaux sociaux.
Moi, je passe un message à France Bleu parce qu'il y a des auditeurs, effectivement, là, sur Facebook qui nous ont conseillé, du coup, de manger des pizzas napolitaines mercredi. Alors, la vanne en tant que telle, ok, mais je trouve que pour nous, en studio, c'est pas mal.
Puisque je vous rappelle que vous retrouverez Joss en studio avec Miguel. Ouais, c'est ça. Vous retrouvez Joss et Emilio en studio et la bande aussi, tonton Steph au stade qui verra son 1066e match et qui a fait le calcul. Et
exactement.
Voilà.
Ah, il suit. Hein.
Attends, mais Rio Béchamé, mais attends.
Ah non, mais c'est pas si facile.
Hein, oui, mais je suis 1066e match pour tonton Steph et Rico Rabessandatana, bien sûr, pour cette émission spéciale. On se retrouvera dès 20h avant match. Vous n'hésitez pas aussi, vous pouvez nous téléphoner pour débriefer sur l'après-match. Bon, avant de se quitter à 18h27, quand même, les enfants. Classico. On va pas le rater. Dimanche, 21h. Oui, je sais, on revient au championnat. Oui, je sais. Alors, vous savez, c'est petit apéro comme ça. Vous faites Amiens. Bon, après, derrière, il y a Naples. Ça, c'est le plat de résistance. Puis, il y a la poire. Tu vois, tu attends voir une petite. C'est Marseille, oui.
La poire, pas vraiment. Parce qu'après, il y a quand même Lille, qui est deuxième du championnat. Ah
ben, ça sera beaucoup plus intéressant.
Alors, pour avoir vu Nice-Marseille hier soir. C'est génial. Il y a une séquence là, qui s'ouvre pour le PSG qui est plus qu'excitante.
Ouais. Pour avoir vu Nice-Marseille hier.
Oui, non, rappelez-vous, l'année dernière, on a dit la même chose. Marseille avait fait un match tout pourri la journée d'avant de recevoir le PSG. Vous connaissez la suite. Hein.
Bien sûr. Morgan Sanson fait la 60e minute. Il est obligé de sortir sur des crampes.
Ce ne sera pas les mêmes. La chance de Paris, quand même, c'est qu'il y a la Lazio pour Marseille cette semaine. Voilà. Chacun va faire son italien.
C'est toujours un match, quand même. Enfin, pour avoir été au Vélodrome ces dernières années à chaque fois, c'est quand même un match qui, avec l'ambiance et tout, fait que ça reste un match à part.
Ouais. C'est un match super intéressant, mais l'enjeu n'y est pas.
Mais de toute façon, l'enjeu, c'est Paris qui l'a tué. Il y a 30 points aujourd'hui, on sait qu'ils vont être champions, donc l'enjeu n'y est pas.
On veut gagner là-bas quand même.
Ah oui,
c'est ça.
Mais c'est ça qui
est. Plus que jamais.
C'est ça qui est génial sur ce match. C'est que le 2-2 de l'année dernière, cette année, ça va pas. Tu veux faire le 11 sur 11, il faut gagner là-bas. C'est ça qui est génial.
Rappelez-vous de cette petite phrase de notre ami Kylian Mbappé, que l'on adore, meilleur buteur de la Ligue 1.
Ah oui, ça avait pas
Nous n'avions pas pris la mesure d'un classico. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que Neymar, qui s'était fait expulser, qui avait pété les plombs sur cette rencontre, Mbappé seront prêts pour prendre la mesure de cette rencontre, Stéphane?
Évidemment, c'est un match pour eux. C'est un match pour eux. S'il y a deux joueurs qui doivent briller dans ce match-là, c'est évidemment Neymar et Mbappé.
Il n'y a pas un peu Cavani aussi, ça pourrait peut-être leur mettre un peu à l'envers.
Cavani a déjà brillé l'année dernière.
On
n'a
pas parlé de Naples, mais Cavani, tout ça. Hein.
Ah bah on peut parler avec de Cavani, Marseille, malheureusement. Cavani avec Amiens, ça n'a pas été terrible. On n'en a pas parlé.
Bah, j'ai voulu lui éviter qu'on lui tombe dessus.
Il a dû sûrement aussi vouloir éviter qu'on tombe sur mon Adrien Rabiot, qui a été excellent. Sa nouvelle coiffure lui va très bien et ça lui permet d'être encore meilleur.
C'est ton fils, un jour on le saura.
Un jour on le saura, ça, le coup. Mais juste, alors, je continue la parenthèse, d'accord, parce qu'il y a effectivement Fred qui nous disait, y a-t-il définitivement un problème avec Cavani? Est-ce qu'on peut en parler? Olivier nous dit, on parle de la rentrée de Diarra. Ça, c'est vrai aussi.
C'est bon,
et Sébastien nous dit, et Moussa Diaby. Et c'est vrai. Donc voilà. Donc je suis d'accord avec vous, Fred, Olivier et Sébastien.
Vous savez quoi? On va demander juste à Gaëtan qui réalise cette émission. Donc, c'est un supporter du Paris Saint-Germain. On peut continuer un petit peu. On a un petit peu de temps devant nous. Vas-y.
Il nous reste 2h30.
Voilà.
On y va.
2h30, on est parti. Bon, juste, vous savez quoi? Je garde Cavani, Diaby, et tu m'as dit, Lazia.
Diarra.
Ouais. Ok. Lazia. Et je tairai notre conversation WhatsApp. Je vous le promets. Parce que je ne dirais pas qui nous a posé la question sur l'entrée de la Sanadiara. On termine quand même sur le classico. La mesure, ok, pour toi, c'est ces deux joueurs-là qui vont faire la différence et qui vont faire exploser Vélodrome.
C'est le match de l'année pour le Paris Saint-Germain. en France. Donc, c'est encore plus que peut-être le parc, le PSG-Marseille. Le Marseille-PSG, c'est un match pour eux. Des Ronaldinho ont brillé lors de matchs comme ça. C'est un match pour Neymar.
Surtout que Neymar n'a pas des bons souvenirs. Hein. Il prend un rouge l'année dernière,
il se
blesse.
Bien sûr, Marseille, c'est un cauchemar pour lui.
C'est vraiment un cauchemar pour lui. Et l'année dernière, Mbappé fait peut-être son pire match depuis qu'il est au PSG, à Marseille, où il est vraiment à côté de ses pompes. Donc, je pense qu'effectivement, pour eux deux, ils auront envie de... Puis en plus, c'est quand même... c'est un stade avec le Parc des Princes. C'est les deux plus beaux stades de France. Mmh. Donc, quand vous êtes dans cette ambiance, pour ces joueurs-là, c'est génial, tout simplement.
Eh ben, on espère, en tout cas.
T'as pas besoin de motiver les Marseillais. Hein.
Oui,
ils seront motivés. Dans l'année, et c'est ce qu'on avait dit l'année dernière. On les avait pas reconnus. C'est-à-dire qu'ils avaient été médiocres la journée d'avant. Je sais plus. Je crois que c'était face à Toulouse, de mémoire. Et là... Ils ont été mauvais hier soir contre Nice. C'était
Nice. Alors
dur,
Nice, oh là là,
exactement. Mais qu'est devenu Balotelli?
Mais bon, c'est autre chose.
Une autre chose.
On n'est pas. Mais
on a du temps.
Je peux faire Balotelli. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut surtout pas se fier au Marseille d'hier soir. Ce sera un autre OM. Il n'y a pas besoin de motiver les joueurs. Et si dans l'année ils doivent réussir un match, c'est celui-là. Ne serait-ce que pour leur
supporter. Mais moi, je pense qu'ils n'auront pas la caisse. Parce que quand tu les regardes hier soir, ils sont cuits.
Non, mais Paris est largement supérieur. Mais regarde, l'année dernière, ils n'avaient pas la caisse. Mais c'est Paris qui arrache le 2-2.
Il n'y avait pas ce pressing-là. On avait dit ça des Croates en finale de la Coupe du Monde. Ils ne devaient pas avoir la caisse parce qu'ils avaient joué le jeudi et le dimanche. Ils couraient partout, les mecs.
C'est pas faux. Un dernier mot sur le Classico et après, on répond aux copains.
Juste à tous les internautes, toutes les insultes sur les Marseillais, je supprime tout. Parce que moi, je dis des gros mots, mais alors vous, je vous raconte pas. On reste poli, les gars.
Bah oui, mais c'est surtout que voilà, c'est entre nous, là. On n'est pas, c'est pas avec les Marseillais.
Oui, enfin, tu veux que je te lise les mots?
Non, ça va aller, Voilà. Très bien. 18h33, on a promis que pour terminer l'émission, on allait terminer avec les trois. Allez, on commence d'abord par la petite pépite, par Moussa Diaby, qui a 19 ans et 3 mois, a déjà marqué 2 buts en Ligue 1 et fait 3 assists.
Il est bien ce gars, il est très bien.
Et pourtant, il n'a pas fait son meilleur match et sa meilleure entrée contre Amiens.
Il avait été meilleur lors des deux précédents matchs qu'il avait disputés avec Paris en Ligue 1, mais c'est un bon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si Paris le fait grandir, le fait mûrir, je pense que Paris tient un très bon et très, probablement très grand joueur.
Je le trouve dans l'observation, moi, Diaby. Il me fait plaisir ce petit jeune à regarder le jeu, tu vois qu'il étudie le jeu avant de rentrer. C'est l'impression qu'il me donne.
C'est vrai.
Je l'ai vu jouer avec les jeunes, les moins de 19 ans, il y a 2 ans, je pense. Et c'était un garçon qui déjà avait cette capacité de percussion, d'élimination. C'est-à-dire que c'est un garçon, il peut vous éliminer sur 30 mètres, 3 joueurs. Et il finissait. Par contre, il avait un petit peu de mal à finir ses actions, il était brouillon. Et là, je trouve qu'il a vraiment progressé dans ce domaine-là.
Par Neymar, adoubé par Neymar.
Oui, mais Onganda avait été adoubé par Ibrahimovic à l'époque.
Erwin, si tu nous écoutes du côté de la.
Ça, ça veut pas dire grand-chose, mais je pense que. Non, pardon,
Mais non, mais bien sûr, évidemment.
Non, mais c'est. Voilà, je pense que vraiment, dans la finition de ses actions, il a vraiment énormément progressé. Et ce qui fait que ça devient un joueur vraiment très intéressant, comme tu disais. Ouais, il a vraiment du talent et si Paris continue à le faire progresser comme ça, il peut vraiment aller loin quoi.
Cavani.
Ah d'accord. Cavani, vas-y. C'est OK, bon. Moussa Diaby, ça t'intéresse pas Moussa.
Moussa Diaby, on est unanime, c'est un crack. Il a juste à travailler et être bien entouré et puis je pense qu'il fera une belle carrière. Cavani. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de le perdre. J'ai la sensation que le joueur déjà la finition, ça n'a jamais été non plus incroyable, il rate beaucoup.
Ah mais là sur ce centre de Juan Bernat et son pied qui s'ouvre avec la cage grande
ouverte,
c'est incroyable. Mais
ça on a eu l'habitude il y a 2 ans et demi.
Ouais.
Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un déchet technique qui est plus important. On le voyait moins les années précédentes.
Tu sais pourquoi ?
C'était couvert par ses buts.
À partir du moment où
il marque plus. Et à partir du moment où il fait moins d'efforts justement pour aller chercher des ballons derrière, eh bien il y a quand même un déficit technique.
Attention avec Cavani.
Oui, il peut en mettre 3, mais
non, mais c'est même pas ça. C'est parce que je pense que c'est un garçon qui a vécu une Coupe du Monde, qui a pas eu beaucoup de vacances, qui a été blessé, qui a mis longtemps à revenir avec un protocole, qui a fait qu'on l'a pas fait jouer pendant tout le mois d'août. Il est revenu fin août, donc
On sait pertinemment, on commence à le connaître depuis 2013, que c'est un garçon qui a besoin d'être à 100% de ses moyens physiques, même pas 100%, au-delà, pour vraiment donner la pleine mesure de ses moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en dedans physiquement, et qu'il paye ça. Et comme tu disais, effectivement, si, je pense. Parce que on dit qu'il a un gros déchet technique. Quand vous mettez quand même 50 buts par saison, c'est qu'à un moment donné, quand même, vous êtes capable.
C'est la plupart, c'est des tapines. Il n'y a pas besoin d'avoir des techniques pour mettre des tapines.
Il est capable de mettre des buts. Et on a vu à la Coupe du Monde, quand il était en pleine possession de ses moyens physiques, que c'était pas non plus une trompette au niveau local. Parce que les buts qui marquent.
C'est lui qui a mis
le but. Un buteur n'a pas besoin d'être super technique pour mettre des buts. Inzaghi, c'était pas Neymar.
Mais il a besoin d'être à 100% de moyens physiques.
Et là, on remet en cause le talent de.
Mais si, un petit peu, je trouve qu'en ce moment, on remet en cause un petit peu tout ce qu'il a pu faire.
Vous êtes en train de faire réagir les réseaux sociaux. On arrive, Joss, on écoute les copains sur la.
Il y a Tonio qui nous dit il est esselé, il fait appel sur appel sans être servi.
Exactement.
Mais il adapte encore une fois son jeu.
Il y a des fois, on l'adore et on espère qu'il va revenir, évidemment.
Oui, mais il y a des fois, il fait des appels, il est pas servi. Mmh. On le voit même, il s'agace.
Même
maintenant.
Le regard, tu le vois dans le regard.
Il se cache même plus. Et puis surtout, faut dire ce qui est. Cavani, il y a un trop gros écart de technique entre lui et Mbappé. Je pense à une action où Kylian, on lui fait une passe dans la surface, il élimine le joueur avec une roulette. Il fait la passe à Cavani qui tente lui aussi la roulette et qui lui fait n'importe quoi.
On n'est pas du tout Mbappé, dans le même style de joueur.
Enfin ouais, c'est pas pareil, c'est pas compatible et malheureusement il le sait.
Ce qu'on appelait les neufs à la Carlos Bianchi, ces mecs qui traînaient dans la surface de réparation, qui prenaient tous les buts à la Gerd Müller, des mecs qui marquaient dans toutes les positions, c'était beau, c'était pas beau, mais ils transformaient. Et puis t'as un Mbappé ou un Neymar qui sont des constructeurs, donc c'est encore des gars qui amènent. Qui font briller les autres. Donc
encore une fois, je pense que c'est un garçon. S'il retrouve son meilleur niveau physique, c'est pas une catastrophe techniquement. Effectivement, c'est pas le même type de joueur que Neymar ou Mbappé, mais c'est un garçon et on l'a encore vu à la Coupe du Monde il y a pas si longtemps. Quand il est en pleine possession, il est capable de vous marquer des buts extraordinaires.
Quand il est en confiance, tout simplement. Là, ça se voit qu'il est pas en confiance. Non, c'est le mental qui est touché. Oui, c'est pas son physique.
Mais si physiquement, je pense qu'il est pas son meilleur.
Pas tant que ça.
C'est plus que tu le disais tout à l'heure. Il fait même plus les efforts.
C'est vrai.
De repli, mais parce qu'il sent qu'il est pas son meilleur niveau.
Même avec Zlatan Ibrahimovic, on l'avait jamais vu aussi dépité sur les actions quand on lui fait pas la passe ou quand.
Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas à son meilleur niveau, comme tu dis, mental et physique, et que c'est même lui, il s'agace lui-même.
Bien sûr.
Et il s'agace aussi parfois qu'on ne lui mette pas le ballon quand il fait des appels.
Évidemment.
Donc je pense qu'il faut qu'il retrouve tous ses moyens pour qu'on retrouve un bon.
Mais c'est à Tourelle aussi de. Voilà, que les trois combinent.
On va voir
ensemble.
Si la calinothérapie marche du côté de Thomas Tourelle. Oui, voilà.
Et pour c'est clôturer.
Malin, tu nous as lancé le truc
et
là.
Oui, mais non, attends, mais là, tu vas voir, je vais clôturer le débat parce qu'il y a Drick qui met une pièce sur le fait que Cavani va marquer contre Naples et Marseille. Je prends le pari, Drick, je suis
c'est
avec toi.
C'est tout ce qu'on souhaite.
C'est tout ce qu'on souhaite, effectivement. Et en plus, Napoli contre son ancien club. Ça sera. Je pense que d'ailleurs, les retrouvailles du côté de San Paolo, ça peut être.
Mais moi, j'ai une vraie question. Pourquoi ces deux attaquants, Neymar et Mbappé, ne jouent pas avec lui? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'entraînement la semaine? Ils combinent pas?
Je pense que c'est une question de génération.
Non,
parce que Neymar et Mbappé, ils sont pas du tout.
La prochaine, je vous parle plus.
On parlera
à l'entraînement.
Regarde, Mbappé a 19 ans, Neymar a 26. Donc, ils sont pas du tout la même génération non plus. C'est quand même 7 ans d'écart. Neymar est plus proche de Cavani.
Mais Neymar va pas à la même chasse que Edinson Cavani. 18h40.
Oh oui, c'est beau ça.
Voilà, 18h40 sur France Bleu Paris dans Tribune
Bruno,
PSG.
C'est pas mal.
Désolé. J'ai craqué. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette émission.
Et on souhaite un bon anniversaire à Laure Boulot qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Alexandre qui nous le rappelle et tu as bien raison de le faire.
Notre marraine.
Dernier petit truc.
Oui.
On a souvent critiqué Marquinhos sur ses placements en milieu de terrain, etc. Ce week-end, je trouve qu'il a fait un super
bon match.
Et je voulais faire un petit message pour lui.
Il jouait quoi, Joss?
Il jouait défense.
Vous savez que le tapis de fin fait 3 minutes.
Non, mais comme je sais qu'il regarde les vidéos YouTube, merci Marquinhos. Et voilà, t'as été bon ce week-end.
Et juste que c'est un bon camarade et qu'il se sacrifie souvent pour lui.
Et juste remercier Las Diarra, on n'a pas parlé de lui. Merci à Joss, merci à Fred Goyard du Parisien. Demain, Fred, dans le Parisien.
Ben justement, on va parler de Tourelle et de tout ce qu'il a changé au Paris Saint-Germain.
Très bien, retrouvez demain dans le journal Le Parisien. Tonton Steph demain matin, 8h10, ici c'est France Le Paris.
Ouais, ça pourrait bien parler de Thiago Silva.
Eh ben très bien, Thiago Thiago Silva et Émilie Ross.
On se voit mercredi
pour l'émission spéciale Ligue des Champions. Merci à Gaëtan qui a réalisé cette émission.
Salut
à Chef Manu qui est en vacances. Il est
mais
en bord de plage,
nous.
Mais qui pense à nous. Je suis sûr, on prendra un cocktail du côté de Meudon. Allez, 18h41. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ciao, bye bye. À la prochaine. Salut, ciao.